Radio Okapi. Le journal Nabil Foula.
Bonjour, 26 morts, 19 rescapés et plusieurs disparus. C'est le bilan du naufrage survenu sous la rivière Kasaï. Selon la société civile des Dibayaloubé, contactée par notre correspondant, l'ivresse des conducteurs est la principale cause de ce naufrage. L'enlèvement la nuit dernière de deux prêtres de la paroisse catholique Notre-Dame des Anges de Mounouka dans le territoire des Bénis. Selon les sources sécuritaires, les ravisseurs n'ont pas encore été identifiés. Le journal de sport, la revue de presse et les dossiers constituent le menu de la deuxième partie de ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames et messieurs, nous commençons par la province du Kwilu où il y a eu naufrage de deux pirogues motorisées le mardi dernier sur la rivière Kasaï à son croisement avec son affluent Katembo. La société civile des Dibayaloubé, contactée par notre correspondant, parle de 26 morts, 19 rescapés et plusieurs disparus. La surcharge et l'état d'ivresse des conducteurs sont les principales causes de ces naufrages, a ajouté la même source. Les causes des accidents proviennent aussi du mauvais balisage de voies navigables, de la sans ces signalisations des bateaux et de l'inexpérience des pilotes. Fabien Kambindi.
Les deux pirogues motorisées provenaient de la cité de Dibayaloubwe, cité située à 120 km au nord d'Idiofa cité, en partance pour Ilebo dans les Kasaï. Le naufrage a eu lieu mardi vers 11h au croisement des rivières Katembo et Kasaï. Selon la société civile de Dibayaloubwe, 45 passagers figuraient sur le manifeste au départ de Dibayaloubwe. Mais d'après les rescapés arrivés à Dibayaloubwe, le gérant de ces embarcations aurait chargé beaucoup de passagers à bord le long de leur parcours. Il affirme en outre que les conducteurs auraient pris plus de verres d'alcool ainsi que du chanvre au niveau du village Mpombi, secteur Kangara, dans le territoire d'Oshoué. Le même rescapé parle de 26 morts et plusieurs disparus des passagers qu'on a embarqués à bord sans être enregistrés sur le manifeste. Le président de la société civile de Dibayaloubwe précise que parmi les 26 morts, 5 sont de la province du Kwilu et les restes du Kasaï. Kikwit, Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Cap vers le nord Kivu, des hommes armés ont enlevé la nuit dernière deux prêtres de la paroisse catholique Notre-Dame des Anges de Bunyuka, située dans la chefferie des Bachou au sud du territoire des Bénis. Selon les sources sécuritaires, les ravisseurs n'ont pas encore été identifiés. Marcel Papi Mukeba nous en dit plus.
Les deux prêtres ont été enlevés vers 21h locales. Selon les sources du diocèse de Butembo-Béni, il s'agit des abbés Pierre Akilimali et Charles Kipassa, tous de la paroisse catholique Notre-Dame des Anges de Bunyuka. Les mêmes sources rapportent que ces hommes armés ont fait incursion dans les couvents, passé à tabac l'assemblée des séminaristes hébergés sur place, avant d'amener avec eux les deux prêtres vers une destination inconnue. Selon des sources sécuritaires, ces assaillants, jusque-là non identifiés, ont également emporté des jeeps des marques RAV4 et des motos de la paroisse de Bunyuka qu'ils auraient abandonnées au niveau du village de Kavasiwe, à environ 12 km de Bunyuka, non loin du parc national de Virunga. Rappelons que trois autres prêtres, Jean-Pierre Ndoulani, Edmo Kisuhu et Anselme Wasukundi, tous de la paroisse catholique Notre-Dame d'Imbaou, dans les territoires de Béni, est enlevé par les hommes armés en octobre 2012, n'ont jusque-là pas encore été relâchés par leurs ravisseurs. Béni, Martial Papimukiba, Radio Okapi.
Restons toujours dans le nord Kivu, neutraliser et mettre fin à la nuisance créée par les éléments LRA est un objectif prioritaire pour la MONUSCO et les FRDC. C'est ce qu'a déclaré le commandant adjoint de la force de la MONUSCO à l'issue d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans la province du Haut-Touélé où la LRA et les éleveurs Mbororo créent la sécurité. La mission conjointe a pris fin le jeudi dernier. On écoute le général Comis au micro de Denise Loukesso.
Je souhaiterais simplement lancer peut-être un petit message à l'égard de ceux qui aujourd'hui vivent dans la brousse, depuis des années peut-être. Je parle de ces groupes armés qui vivent, je dirais, comme des bêtes. Je les engage très vivement à prendre contact avec nos détachements ou avec les détachements militaires congolais, à déposer les armes. Nous ferons tout ce que nous devons pour leur permettre de retourner à une vie normale. Qu'ils cessent ces actes, qu'ils reviennent à la vie normale et nous donnerons à leur famille et à eux-mêmes toutes les chances possibles pour vivre comme un être humain doit vivre et non pas comme un animal dans une forêt et qui cherche à survivre à travers une violence inacceptable.
Toujours dans le registre sécuritaire, à Kinshasa, au moins 4 attaques des symboles de l'État ont été perpétrées en l'espace de 2 mois dans la capitale par des hommes non formellement identifiés. Bien que la police attribue ces attaques qui causent des dégâts corporels et matériels importants à des bandits, certains observateurs, par contre, le qualifient du terrorisme urbain qui prend corps à Kinshasa, non seulement en se déplaçant d'une commune à une autre, mais visant surtout les symboles de l'État. Innocent Olera. Innocent Olinga revient sur ses attaques.
La première attaque est perpétrée le 17 mai dernier sur la prison centrale de Makala, causant la mort, d'après le gouvernement congolais, d'une dizaine de personnes, dont 4 policiers et des dégâts matériels très importants. Alexis Thambwe Mwamba, ministre de la Justice, attribue cette attaque qui a aussi occasionné l'évasion de plus de 3000 détenus aux adeptes des Bundu Diamayala du député national Nimwan Dansemi. Le samedi 10 juin, 2 attaques sont dirigées simultanément contre les parquets des grandes instances de Matete et les bureaux de la police du district de Moamba. Bilan. 2 personnes mortes, dont une policière, 17 détenus évadés et des bâtiments et des véhicules incendiés. Les assaillants ne sont pas formellement identifiés. Le 29 juin, le commissariat de la police situé près de la maison communale de Kalamu est aussi attaqué par des hommes armés dont l'identité n'est pas connue. Là, des policiers sont blessés et l'un d'eux garde du corps du bourgmestre, succombe de ses blessures. Des véhicules sont aussi incendiés. Le 14 juillet, c'est le marché central qui est attaqué par ces hommes toujours non identifiés. L'administrateur de ces marchés et son garde du corps sont tués crapuleusement. À voir la trajectoire de ces attaques, on constate qu'elles sont parties de la commune de Selembao, en passant par les communes de Matete et Kalamu, pour atteindre finalement la Gombe, centre des grandes institutions étatiques.
Au sujet de ces attaques, Radio Okapi a fait réagir le responsable de la sécurité dans la ville de Kinshasa. L'inspecteur provincial de la police, le général Célestin Kanyama, s'exprime au téléphone de Billy Yvon Lutumba.
La population peut se calmer et faire confiance à la police puisque nous avons reçu les instructions de la hiérarchie pour que toutes les mesures sécuritaires soient renforcées pour que la population vague librement à ses occupations. Que ce soit les édifices de l'État, que ce soit les marchés, de quoi que nous avons renforcé des mesures sécuritaires, c'est ce qui est le plus important, c'est ça. Je crois que la population doit également nous aider avec les informations. Si vous voyez un mouvement suspect quelque part, ou les gens suspects également, il faut alerter directement la police.
Pour revenir au cas du marché central, les marchands ont fustigé le fait que l'intervention est arrivée plus de 40 minutes après. Les services de renseignement, qu'on appelle bureau 2, on ne les a pas vus quelque part quand ces gens étaient en train de se retirer du marché.
Mais nous tous, que ce soit la population, que ce soit nous-mêmes, nous devons jouer aussi à ces services de renseignement. Nous devons informer les services de l'État à prendre les malfrats en charge à temps.
La province du Nord Kivu dispose désormais d'un plan d'action 2017-2018 pour la maîtrise de la population carcérale. Le document amendé a été validé à l'issue d'un atelier de 3 jours qui s'est clôturé hier le samedi dernier à Goma. L'atelier a été organisé dans le cadre du programme pluriannuel d'appui à la justice PPAJ qui est une initiative conjointe du ministère de la Justice, de la MONUSCO et le PNUD. La validation des ces plans selon les organisateurs et la réponse aux recommandations ayant sanctionné une mission d'inspection dans les maisons carcérales des Litouri Nord et Sud Kivu au mois de mars dernier. Bernadette Nyangui.
Le plan validé par les magistrats et autres opérateurs judiciaires définit une feuille de route prévoyant entre autres des séances d'information et formation sur les procédures de détention, les contrôles et inspections réguliers des parquets et des prisons. Cela avec l'objectif de désengorger les maisons carcérales de la province. Toutefois, pour cette première année, la priorité sera accordée à la prison centrale de Muzinze de Goma, dit le colonel Raphaël Majaliwa, avocat général des forces armées de la RDC, un des facilitateurs.
Il y a une surpopulation parce que cette prison est faite pour 150 personnes. Bien sûr, il y a plus de 1900 détenus qui sont là. C'est ainsi qu'il faudra maîtriser cette population carcérale.
S'appropriant le plan, le vice-gouverneur du Nord Kivu dit compter sur l'appui des partenaires pour le succès du dit projet. Feller Routaï Tiroua.
J'ai l'espoir que d'ici décembre 2018, la justice au Nord Kivu méritera la confiance de la population. Je sollicite auprès du PNUD et de la MONUSCO la forte mobilisation des fonds.
Ajoutons que lors de la clôture de la télé, Béliers, le PNUD et la MONUSCO ont fait un don de 5 motos et 4 kits informatiques destinés aux instances judiciaires et à la division provinciale de la justice du Nord Kivu. Goma, Bernard Nyangé, Radio Kapi.
Rendons-nous à présent au sud, Ubangi, où la route Akula-Gemena-Zongo vient d'être réhabilitée par l'entreprise chinoise Zhengguan Technic Corporation. Cette route, l'épine dorsale de l'économie de cette province, était impraticable depuis plus de 10 ans. Sa réhabilitation était un ouf de soulagement pour le paysan et opérateur économique qui, à nouveau, évacuent leurs produits vers les centres commerciaux et peuvent voyager en sécurité. Un reportage de Dominique Wolombi.
La reprise du trafic sur la route Akula-Gemena-Zongo est une délivrance pour les paysans établis sur cette route, selon leurs propres termes, et pour les opérateurs économiques. Ces tronçons longs de 375 km relient les ports d'Akula sur la rivière Mongala au port de Zongo sur la rivière Ubangi, en passant par Gemena, chef-lieu de la province du sud Ubangi. Des fonds importants ont été engloutis par le gouvernement pour la réhabilitation de cette route, la Nationale 5. Des fonds décaissés en faveur des entreprises parisiennes, Batipon et Number One, qui se sont volatilisés sans achever les travaux et laissant derrière des travailleurs non payés. Avec la reprise du trafic sur la route Akula-Gemena-Zongo, les paysans et les camionneurs se disent très contents. À Zongo, la ville qui fait face à Bangui sur la rivière Ubangi, c'est le soulagement, dit le président de la société civile Force Vive, Stéphane Mopila. Maintenant, ajoute-t-il, le marché de Zongo est inondé en denrées alimentaires. Poissons, chenilles, maïs, manioc, huile de palme qui viennent de Bujala et de Kungu arrivent facilement. Des minibus assurent déjà les transport en commun entre Akula-Gemena et Zongo. Notons que pour l'entreprise chinoise Zhengguin Technic Corporation qui a réhabilité cette route, il reste encore des travaux de finissage. Mbandaka, Dominique Wolomi Mungapange, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, le service de renseignement détient depuis vendredi 3 personnes accusées de torpiller les opérations d'enrôlement des électeurs. Au nombre de ces personnes, Nicolas Mbia, membre du mouvement citoyen Lucha Ambujimai. Chris Moukan nous relate le fait.
Tout s'est réparti de l'arrestation le 8 juillet dernier à Kabeya Kavanga des membres de centre d'inscription sur qui il a été trouvé 20 cartes d'électeurs. Ces cartes présentées samedi à la presse ont toute la photo de ce même agent de la CENI, mais avec des noms différents. Pour le secrétaire exécutif provincial de la CENI Kasaï Oriental, il s'agit là d'une manœuvre bien orchestrée qui vise à obtenir beaucoup de doublons. À l'opération de nettoyage du fichier, tous les doublons sont ipso facto radiés. Conséquence, les prévisions des enrôlés ne seront pas atteintes et le Kasaï Oriental risquerait de perdre davantage de sièges. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI Kasaï Oriental, Nicolas Kalambaï, qui dénonce cette pratique, soutient qu'il s'agit d'un acte infractionnel réprimé par la loi. Par ailleurs, il explique que Nicolas Mbia, qui n'est pas de la CENI, mais membre de la Lucha, a été interpellé car il y a des indices qui le lient à certains agents faussaires de la CENI. Des sources de services de renseignement, Nicolas Mbia affirme avoir demandé à l'agent de la CENI, Kabeya Kamanga, de lui transférer la liste de tous les doublons. Il comptait s'en servir pour alerter les autorités sur les failles des opérations d'enrôlement qui tendent à leur fin au Kasaï oriental. Chris Mukand, Mbujimayi, Radio Kapi.
Le prix du passeport ordinaire est passé des 185 $ à 195 $ américains. Dans une note circulaire signée par le secrétaire général aux affaires étrangères datant du 7 juillet, Jean-Dieu Mouland indique que 10 $ vient d'être ajouté comme bonus sur l'établissement du passeport ordinaire. Selon lui, ce montant est destiné au ministère des Affaires étrangères et intégration régionale. Comment cette mesure est accueillie par les requérants de passeport? Suivez ce reportage de Suzanne Zobo.
C'est au niveau du guichet de la banque situé à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères que les requérants sont surpris de constater que le formulaire des passeports biométriques est passé de 185 à 195 $. Les 10 $ de surplus est considéré comme frais à payer au ministère des Affaires étrangères.
On ne nous a pas informé, on vient là sur place, on trouve que le prix a été majoré, donc maintenant il faut chercher à ajouter l'argent.
Surpris un peu parce que je ne m'attendais pas, on a majoré de 185 $. Aujourd'hui, c'est à 195 $, 10 $ de plus. On nous dit que c'est le ministère des Affaires étrangères qui doit en fait en bénéficier. Nous nous posons une question, celle de savoir, depuis 7 ans, est-ce que le ministère ne se retrouvait pas dans 185 $ qui étaient en fait fixés pour avoir un passeport.
Selon cette circulaire, les 10 $ sont versés dans un compte du ministère des Affaires étrangères. Radio Okapi a tenté d'avoir des précisions du secrétaire général des Affaires étrangères sur les vrais mobiles de cette hausse du prix du passeport ordinaire, mais en vain.
Actualité Afrique Monde.
Nous commençons par le Cameroun. Un navire de l'armée a chaviré dimanche matin au large de la mer d'Mboucha avec à son bord 37 personnes, dont des membres de la brigade d'intervention rapide. Une mission de secours composée des patrouilles maritimes et aériennes aurait aussitôt été dépêchée sur la zone, a indiqué le même jour un communiqué de presse du ministère de la Défense. 3 soldats ont pu être secourus, mais les bateaux semblent avoir coulé au fond des eaux, précise le communiqué. D'après la même source, les circonstances du drame ne sont pas encore élucidées, mais les premières informations font état d'une mer qui s'est brusquement agitée. Au Congo-Brazzaville, le quelque 2 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier pour le premier tour des législatives et pour des élections locales à un seul tour. Malgré quelques incidents et d'importantes anomalies, c'est dans le calme et sans bousculade que les Congolais ont voté. L'un des enjeux majeurs de ces scrutins, le taux de participation devait être particulièrement faible, à l'image du bureau de vote de l'hôtel des villes de Brazzaville, où on est recensé que 28 votants en fin de journée d'hier dimanche. Un appel au boycott avait en effet été lancé par la Fédération de l'opposition congolaise, qui dénonçait d'ores et déjà un vote scandaleux et la fraude. Tension entre les deux Corées. Séoul a proposé ce lundi à Pyongyang d'engager des discussions pour faire retomber la pression sur la péninsule de Corée après le tir d'un missile balistique intercontinental par le Nord. Le ministère sud-coréen de la Défense propose un rendez-vous vendredi. L'initiative est du nouveau président sud-coréen Moon Jae-in, qui s'est engagé pendant la campagne à privilégier les dialogues avec le régime de Kim Jong-un. Destitué en mars, l'ancien président sud-coréenne avait refusé de répondre aux échanges tant que la Corée du Nord, sous sanctions internationales, ne prenait pas des mesures concrètes vers une dénucléarisation. La main tendue de Séoul à son voisin est une première depuis décembre 2015. Et enfin, en Iran, la justice iranienne a annoncé hier la condamnation à 10 ans de prison d'un ressortissant américain accusé d'infiltration dans un contexte de crispation entre les deux pays. L'Américain a été identifié et arrêté par les services de renseignement. Il était venu pour une mission d'infiltration et a été condamné à 10 ans de prison, a déclaré le porte-parole de la justice iranienne. En réaction, les autorités américaines ont réclamé la libération immédiate de tous les Américains injustement détenu par la République islamique. C'est la première fois qu'un ressortissant américain est condamné à une peine de prison.